Vous écoutez France Culture.
Sur le bateau d'Ulysse, aujourd'hui, le ciel de Platon, avec Dominique Proust. Il est beaucoup question dans cette série de la navigation d'Ulysse. Il arrive que dans tel passage sublime de l'Odyssée, Homère évoque les constellations. Les anciens Grecs n'avaient pas le même ciel, les mêmes luminaires que nous, mais rien ne nous empêche d'évoluer dans leur espace-temps sous leur ciel tel qu'ils se le représentaient. J'accueille Dominique Proust qui rentre du Brésil. Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Meudon. Vous effectuez vos travaux avec les grands télescopes internationaux. Vous allez bientôt repartir au Chili, je crois.
Oui, c'est exact. Je vais partir faire les observations donc dans les grands observatoires qui sont installés dans la cordillère des Andes, dans le désert d'Atacama, oui.
Et en même temps, on peut vous rencontrer parfois, par exemple à Notre-Dame de Paris ou à Saint-Sulpice, où vous investissez l'orgue. Est-ce que c'est la lecture de Platon, de Pythagore, la connaissance des lois de la physique qui vous a poussé à resserrer ces liens entre l'astronomie et la musique ?
C'est surtout le fait d'avoir une formation presque bimodale, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois des études scientifiques qui sont sévères, parce que l'astrophysique on tombe dans une espèce de marmite quand on est jeune, et on regarde le ciel d'abord avec ses petits instruments, et on continue ses études, et ça va mener jusqu'au doctorat, c'est-à-dire bien des années plus tard, pour accéder aux grands instruments, et en même temps accéder à des nouvelles conceptions et faire évoluer sa propre image du cosmos en fonction des travaux qui sont faits, qui sont réalisés dans l'ensemble des grands observatoires. Et d'autre part, l'autre aspect, c'est la formation musicale, donc la plus complète possible, mais qui ne m'a pas mené jusqu'à un doctorat, mais j'ai eu la chance de travailler avec des grands maîtres, notamment à Notre-Dame de Paris et à Saint-Sulpice, et d'avoir cette approche, à la fois une approche synthétique et une approche, trouver cette dualité, ce lien entre musique et astronomie, un petit peu à la manière de Pythagore, et pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt dans l'ensemble de ses recherches.
Parce que Pythagore fait du cosmos un gigantesque instrument de musique. Hein.
Oui, c'est essentiellement parce que l'observation des planètes, Pythagore observe un certain nombre de planètes, il en observe 7, c'est-à-dire il ajoute aux 5 planètes classiques le Soleil et la Lune, c'est-à-dire tout ce qui se déplace dans le ciel, les étoiles étant considérées comme des fixes, et les quelques avatars des comètes, par exemple voyageuses, mais qui ne viennent pas troubler l'ordre du monde. Et comme ces planètes se déplacent, il imagine qu'elles produisent un son dans leur mouvement. Tout mouvement produit un son. Et l'ensemble de ces sons constitue ce que l'on appelle la musique des sphères ou l'harmonie des sphères, c'est-à-dire, au sens de Pythagore, un accord parfaitement consonant que l'on n'entend pas parce que l'on est. C'est une controverse que l'on trouvera après avec Aristote, qui dit tout simplement que ce son, cette sonorité merveilleuse, on devrait l'entendre. Ce à quoi l'école pythagoricienne répond, mais nous sommes nés dedans, donc nous ne l'entendons pas par accoutumance.
C'est comme le meunier qui n'entend plus tourner son moulin.
Exactement, en fait, oui.
Alors, on s'aperçoit, quand on lit vos textes, que Platon, finalement, était un pythagoricien, puisque, on lit surtout Platon par rapport à l'histoire de la philosophie, mais il y a aussi une rubrique consacrée à la science au sens large, et là, il se révèle proche de Pythagore.
Oui, Platon est très proche de Pythagore. D'ailleurs, les élèves de Pythagore qui vont reprendre les conceptions du maître Pythagore vont aboutir jusqu'à Platon, et on trouve cet ordre pythagoricien du monde dans les écrits de Platon, notamment par exemple dans La République. Le songe, le voyage initiatique d'air dans La République, à travers les différentes sphères, est révélateur d'un monde dans lequel il va rencontrer des sirènes sur chaque orbe, sur chaque orbite de planète, et ces sirènes se déplacent sur les planètes et produisent cette fameuse musique des sphères. Et lorsque R revient sur Terre, il a la révélation du monde, il y a la révélation du cosmos.
Parce que chez Platon, au fond, le moteur de sa démarche, c'est quand même cette quête éperdue d'unité et d'harmonie. Et donc là, il se retrouve évidemment avec Pythagore.
Oui, c'est même l'essentiel du Timée, c'est cette quête d'unité des sciences, unité du monde. Et on la trouve dans toutes les disciplines qui sont évoquées à travers le Timée, que ce soit la physique, la chimie, les mathématiques, avec les progressions harmoniques et géométriques. Donc en fait, ces harmoniques, on les trouve dans la théorie musicale, c'est la décomposition du son dans les différents fondamentaux, la quinte, la tierce, etc. Et Platon reprend cette vision, une vision mathématique du monde. Le monde est chiffre d'une certaine manière et peut s'expliquer par le chiffre.
Mais Dominique Proust, cette recherche obstinée d'une théorie unitaire de l'univers, elle trouve un écho dans la cosmologie contemporaine, non ?
Mais oui, parce que beaucoup de scientifiques cherchent une théorie du tout, c'est-à-dire un ensemble de formules. Il y en a quelques approches, simplement le simple E égale MC carré d'Einstein est déjà un pas vers ce qui serait une théorie globale qui expliquerait le tout. Bon, récemment, un physicien a proposé une théorie globale qui peut expliquer aussi bien les lois les plus grandes dans l'univers que les invariances d'échelle, c'est-à-dire les plus petits mouvements, les plus petits phénomènes que l'on peut observer dans le domaine microscopique. Et ce sont les mêmes lois qui peuvent régir aussi bien la valse des galaxies que le mouvement des feuilles d'un arbre, etc., ou même plus petit, le mouvement interparticulaire.
La démarche de Platon est une démarche purement spéculative, et c'est quand même l'observation du ciel, l'enregistrement de la régularité des phénomènes célestes qui est à l'origine de l'astronomie. Alors, les spéculations de Platon, est-ce qu'elles n'ont pas freiné le développement des sciences de la nature en général, et tout particulièrement de l'astronomie ?
Non, parce que Platon a une vision très ouverte du monde. Il est prêt à recueillir les hypothèses venant éventuellement d'autres écoles. Il est un héritier, on disait qu'il était un héritier des pythagoriciens, il est aussi un héritier des éléates, il est un héritier de toutes les écoles du monde méditerranéen.
De Démocrite aussi, des atomistes.
Et les atomistes sont... Oui, il va s'intéresser aux atomistes, ça va être Démocrite. Et ensuite, il va prendre conscience de cette opposition entre la théorie atomique de Démocrite et puis le vitalisme défendu par Aristote. Ces différentes théories, il va les confronter, il va les peser, il va les sous-peser. Et de toute façon, le résultat, c'est quand même, de la part des Grecs, d'arriver à construire une physique moderne qui n'a rien à envier à la nôtre, puisque Démocrite arrive à parler de particules, dans l'atome est divisé en petites particules. Il arrive même à presque à dissocier ce que l'on appelle maintenant les protons, des neutrons, des électrons, en disant qu'il y a des particules, des atomes qui sont plus gros, plus petits, suivant que ce sont les atomes de l'esprit, les atomes du corps, les atomes de la motricité, etc. Tout le monde est atome avec différentes tailles. En fait, il propose déjà une sorte de classification des éléments.
Quand même, à l'époque de Platon, une autre école prospère et elle se fonde sur l'observation des phénomènes qui s'offrent aux yeux et qui écartent tout recours au surnaturel et à la mystique.
Oui, en fait, le monde que l'on observe, il s'agit vraiment d'en faire une interprétation qui ne soit absolument pas une interprétation de méta, rentrer dans un domaine méta, le métaphysicien, c'est vraiment une interprétation physique. Je vois le phénomène, c'est Euclide avec son bâton qui va mesurer les ombres et va parvenir à calculer la courbure de la Terre en commettant simplement une erreur de 6% sur cette courbure.
Mais donc, cette école, c'est l'école ionienne avec des noms très connus, c'est les disciples de Thalès. Hein.
Oui, donc Thalès est le premier grand géomètre, en fait. Toute l'école ionienne est une école de géomètres, est une école d'observateurs, et qui va tirer simplement les lois, essayer de trouver les lois à partir de ce qu'ils observent. En fait, ça sera la même démarche que l'on retrouvera chez les scientifiques au siècle des Lumières, c'est-à-dire se débarrasser de tous les oripeaux qui pourraient briser le raisonnement. Tout ce qui n'est pas explicable sera directement utilisé pour construire une théorie solide. Mais après, on assistera peut-être aussi à un certain radicalisme de ce raisonnement qui peut conduire à des excès inverses, c'est-à-dire peut-être même à conduire à des écoles plus récentes où on affirmait, par exemple, que tout ce qui était plus lourd que l'air ne pouvait pas voler juste avant les générations d'avions, si vous voulez.
Mais est-ce que vous pensez que les Ioniens avaient aussi, comme les Pythagoriciens, cette préoccupation d'une recherche de l'harmonie fondamentale de l'univers ?
Oui, les Ioniens ont hérité des Pythagoriciens fondamentalement là-dessus, c'est-à-dire la recherche la théorie unitaire. L'ensemble des observables doit conduire, aussi bien pour les pythagoriciens que pour les ioniens, une théorie du tout, une théorie qui explique vraiment le monde.
Parce que leur école, au fond, profite de l'héritage des Babyloniens. Hein?
Oui, mais les Babyloniens étaient beaucoup plus spéculatifs. Les Babyloniens avaient quand même beaucoup de... La science était aux mains de mages, de prêtres, qui interprétaient en sens de manière prédictive. Toute l'astrologie ancienne, toute l'astrologie babylonienne sera ensuite reprise, c'est l'héritage de cette astrologie sera celle de Ptolémée, qui ensuite sera propulsée sur notre époque. Mais pour cette astrologie babylonienne, ce n'est pas une interprétation directe du ciel, c'est une interprétation prédictive en proposant des attitudes à adopter à des suzerains ou alors à toute personne ou à tout dignitaire.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure qu'on était capable de mesurer, 3 siècles avant Jésus-Christ, la courbure de la sphère terrestre. On peut se poser la question, quand apparaît pour la première fois l'idée que la Terre est ronde et l'idée audacieuse qu'elle n'est pas fixe, mais qu'elle est au centre de l'univers?
Alors, la rotondité de la Terre, on peut véritablement l'attribuer à l'école d'Euclide, puisque celle-ci est mesurée. Le fait que la Terre ne soit pas le centre du monde est envisagé déjà, on peut penser à l'époque de Pythagore, parce que la Terre, sur le fait que la Terre doit produire un son, c'est la question de savoir si la Terre est silentium ou non silentium. Et si la Terre est le centre du monde, ben elle ne bouge pas, donc elle ne produit pas de son, elle ne participe pas au concert de l'harmonie des sphères. Et là, ça pose un problème qui est tel que les descendants, les héritiers de l'école pythagoricienne vont déplacer la Terre et la faire tourner par rapport à une antiterre qui s'appelle antistone, de manière à ce que la Terre soit mise en mouvement. Ensuite, il faut pratiquement attendre 3 siècles pour arriver au premier modèle héliocentrique qui est proposé par Aristarque de Samos.
Et Platon, dans le Timée, puise son astronomie, évidemment, chez les pythagoriciens. Pourtant, il récuse le modèle, disons, non anthropocentrique qui existait, qui était produit par l'école de Pythagore.
Oui.
Il préfère la sphère.
Oui.
Parce que c'est plus beau, c'est plus...
Il préfère... La sphère représente une perfection pour Platon. C'est vraiment le modèle le plus pur, oui.
Et il ne tente pas de sonoriser la planète. Pour lui, la planète est silencieuse.
Oui, la Terre demeure silencium au sens de Platon, oui. Mais par contre, pour lui, la Terre est quand même le centre du monde, le mundus sur lequel vivent les hommes. Et pour pouvoir écouter les sons, avoir une idée de l'harmonie divine, il faut que la Terre elle-même soit silencieuse pour éviter de, disons, de couvrir le bruit, pourrait-on dire.
Dominique Proust, l'harmonie des sphères, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'elle a un peu quitté aujourd'hui le ciel en même temps que la musique savante ?
Le problème en cosmologie moderne, lorsque l'on fait de l'observation du ciel profond, c'est évidemment le fait que si la lumière peut se propager dans le vide, le son ne peut pas. Il a besoin vraiment d'un vecteur de propagation qui est une atmosphère, un gaz pour pouvoir rentrer en vibration. Maintenant, les observations précises des étoiles permettent de conclure de manière certaine que tous les corps du ciel, en fait, émettent un son. Localement émettent un son, il faut s'en approcher simplement suffisamment près. Si le vide est pratiquement acquis entre les différentes composantes, entre deux étoiles, il y a peut-être un atome tous les mètres cubes ou tous les kilomètres cubes, ce qui est parfaitement insuffisant pour propager un son. Dès que l'on s'approche d'une étoile, la structure même de l'étoile, le modèle stellaire, fait qu'à l'intérieur, les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements convectifs de la matière qui viennent au bord de l'étoile et qui replongent dans le cœur de l'étoile, tout ce brassage de matière, provoque des cavités dans lesquelles il y a des résonances acoustiques. Et les spectres obtenus, les spectres physiques obtenus, les spectres radio obtenus par exemple du Soleil, sont absolument identiques à des spectres acoustiques. On sait que le Soleil, en fait, a des cavités, émet des sons. Et toutes les étoiles.
C'est une découverte des années 60, hein, je crois.
60-70, et comme dans notre seule galaxie, qui a quand même pas loin de 200 milliards d'étoiles, des étoiles de type identique au Soleil à peu près, représentent à peu près 70-75% des étoiles de notre galaxie. Donc il y a chaque étoile a un son. D'autre part, d'autres corps un peu particuliers émettent des sons comme le stade ultime d'effondrement d'une étoile massive qui a explosé, qui est devenue une supernova. Lorsque l'étoile a explosé, le cœur qui est un cœur, une sorte de noyau de fer, s'effondre sur lui-même pour donner ce qu'on appelle un pulsar. Ce pulsar va émettre un signal sur une fréquence qui est une fréquence sur une fréquence musicale, une fréquence sonore.
Et donc le Big Bang ne concerne pas seulement un jaillissement de lumière, mais comme son nom l'indique, c'est aussi un problème sonore.
Dans les premiers temps, il y a le son, les premiers temps de l'univers où la matière était où l'univers était très dense, justement, l'univers était beaucoup plus petit, c'est-à-dire peut-être dans les 100 000 ou 200 millions qui ont suivi le Big Bang, l'univers lui-même était sonore. Si on parle David Hicks, qui était le leader de l'harmonic choir, d'un chœur harmonique, qui parlait à la fois du Big Bang et du Big Ring, c'est-à-dire grande lumière et grand son.
Alors les galaxies et les étoiles auxquelles accèdent les grands télescopes nous offrent évidemment le spectacle, si je comprends bien ce que vous dites, d'une espèce de grand opéra cosmique et qui peut être habité par d'autres formes de vie. Les sondes spatiales d'ailleurs qui se dirigent vers les étoiles contiennent aussi un fragment de musique terrestre. Est-ce que chez les Grecs, l'idée qu'une entité consciente pourrait exister ailleurs que sur Terre existait déjà ?
Oui, après Démocrite, on trouve différentes écoles, notamment chez les épicuriens. La notion de... Les épicuriens sont parfaitement convaincus que le monde, notre Terre, s'est répliqué partout dans l'univers et qu'il y a d'autres mondes identiques aux nôtres qui se répondent en écho. Je vais citer Épicure, et Épicure dit « Il existe une infinité de mondes similaires ou différents du nôtre. Nous devons croire que dans tous ces mondes, il existe des créatures vivantes, des plantes et toutes choses que nous trouvons en ce monde. » C'est vraiment une notion très forte pour Épicure. Et un de ses disciples, qui est Métrodore, va dire « Il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans le vaste univers. » Et ça, c'est une notion qui est très forte chez les Grecs. À laquelle Les vitalistes vont s'opposer d'ailleurs.
Les vitalistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans le camp d'Aristote.
Aristote, oui, oui.
Mais alors, l'idée que, par exemple, l'eau est l'élément essentiel pour qu'il y ait de la vie, est-ce que cette idée existe déjà chez les Grecs?
Oui, déjà chez Thalès, par exemple, l'eau est l'élément essentiel. Dans l'école ionienne, la vie est liée à l'eau. Et c'est une notion assez tout à fait remarquable, puisque, disons, 2500 ans après, un des critères pour rechercher la vie dans l'univers, c'est l'eau également, par exemple. Nous avons, à ce jour environ, les astronomes ont découvert environ 300 planètes tournant autour de plus de, à peu près autour de 200 étoiles, jusqu'à quelques dizaines d'années-lumière autour de nous. Maintenant, la prochaine étape, maintenant que ces planètes ont été cataloguées, on sélectionne celles qui se trouvent sur la zone, ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire la planète doit être à la distance de son étoile mère, de telle manière que s'il y a de l'eau, elle existe à l'état liquide, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, on reprend cette notion ancienne des Grecs pour, d'abord, avant de chercher du vivant, on cherche de l'eau sur une planète. Et ensuite, s'il y a de l'eau, on pourra chercher la vie, c'est-à-dire détecter s'il y a de l'eau, s'il y a une atmosphère, et ensuite si dans cette atmosphère il y a une méthanogenèse, c'est-à-dire un cycle du carbone qui est détectable.
Alors, il existe un certain nombre aussi de voyages sur la Lune, donc on pourrait dire que la science-fiction, elle aussi, elle existe déjà dans l'Antiquité.
Oui, les anciens, y compris Platon, ont envisagé des voyages initiatiques et des voyages sur la Lune. On trouve dans des textes de chez Lucien de Samosate, par exemple, ce type de voyage où la Lune est décrite avec déjà des montagnes, des vallées, et les Sélénites se promènent en chevauchant des bêtes assez monstrueuses, des oiseaux à trois têtes avec des plumes
qui sont
des feuilles de salade. Voilà.
Ah oui, voilà.
On trouve ensuite les mêmes fictions chez Kepler, par exemple. Plus récemment, on a toujours une idée du Kepler grave et triste, travaillant sur les lois de la mécanique céleste, mais recherchant aussi l'harmonie du monde par la musique, comme il le fait dans l'Harmonie Sess Mundi en 1617. Et en même temps, il y a aussi une fiction de Kepler qui a été éditée par son propre fils et qui, à cette époque-là, envisageait la vie sur la Lune et sur les autres planètes. Et cette publication a été diffusée sous le manteau, en fait.
C'est au fond avec Kepler que s'achève la grande histoire de l'harmonie des sphères, hein.
Dans sa forme classique, oui, elle va être reprise ensuite plus systématiquement au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières va permettre notamment d'aborder une question importante entre la distance des planètes, qui est toujours pour les Grecs le problème le plus persistant. Ils ne peuvent pas, ils ont toujours le problème de connaître la distance entre les planètes. Dès l'instant où on connaît la distance des planètes, on va voir que leur distribution en distance obéit à une loi harmonique parfaitement identique à une loi musicale.
L'astrophysique, en particulier la cosmologie, s'enracine donc dans la philosophie et la littérature de l'Antiquité, aussi bien que dans les démarches scientifiques les plus rigoureuses, avec l'appui des grands télescopes que vous manœuvrez, Dominique Proust, en alternance avec les prestigieux orgues de Paris et d'ailleurs. Vous avez publié au Seuil l'harmonie des sphères, et l'année dernière avec Jean Schneider, spécialiste des planètes extrasolaires, où sont les autres, à la recherche de la vie dans l'univers. Sur le bateau d'Ulysse, une émission proposée par Gérard Gromère, aujourd'hui, le ciel de Platon avec Dominique Proust, prise de son Nadège Antonini, réalisation Sylvie Migaud.